Corinne Lepage est une avocate et une femme politique connue pour son engagement et son combat pour une écologie soutenable et compatible avec les contraintes économiques. Pendant la période de confinement, elle a réalisé plusieurs vidéos pour le mouvement éthique présidé par Sophie de Menton. Nous lui avons demandé s'il fallait aujourd'hui absolument conseiller aux entreprises de s'orienter vers une économie plus verte.
Je pense qu'elles n'ont pas le choix. Moi, je défends avec mon ami Emmanuel Druon ce que j'ai appelé l'économie dans un bouquin qui est paru en 2007. Donc, vous voyez, ça ne remonte pas tout à fait à aujourd'hui. C'est-à-dire une économie qui est compatible avec l'écologie. Je pense que c'est pas une option pour parodier Madame Thatcher, Tina. Il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas d'alternative parce que nous sommes dans un monde de ressources finies, parce que nous sommes confrontés à des défis qui mettent en péril l'humanité elle-même, et que l'avenir de chaque entreprise, il passe par sa transformation. C'est comme ça. Alors ensuite, le débat, il est autour de à quel rythme on fait les choses et comment est-ce qu'on peut essayer d'en faire des opportunités, tant en termes de coûts de revient qu'en termes de développement de marché. Et c'est dans cette optique-là que j'ai proposé à Sophie de Menton, dans le cadre du Covid, parce que moi-même, au sein de mon cabinet, j'avais lancé une série, et je continue d'ailleurs, de webinaires sur l'adaptation et ce qu'on appelle la résilience, c'est-à-dire la capacité de résister au choc. Je lui ai proposé de faire quelques petites vidéos très simples et dont l'objectif est de devenir, je dirais, non pas de plus en plus complexe, mais de plus en plus ambitieuse pour montrer ce que l'on peut faire. Donc, on a commencé par parler des trajets, des transports, puis on a parlé des ressources et notamment de l'abandon du plastique, du papier, de l'utilisation du verre et de l'eau, voilà, des choses très simples pour en venir ensuite à des questions autour de l'énergie, de l'économie circulaire, etc.
Est-ce que les entreprises sont réceptives à ce message dans cette période de crise, de chômage?
Écoutez, oui, elles le sont. J'allais dire de gré ou de force, la première réaction du MEDEF n'a pas été très positive. Mais ensuite, je pense que cette organisation s'est rendue compte que sa position avait beaucoup choqué l'opinion publique. Je co-préside moi-même un mouvement des entrepreneurs de la nouvelle économie qui regroupe des entreprises qui sont tout à fait convaincues que c'est la direction dans laquelle il convient d'aller. Donc, encore une fois, ceux qui ne prendront pas le tournant, ce sont ceux qui se condamnent eux-mêmes. Et il faut bien comprendre que d'avoir des raisonnements en termes de sobriété, c'est des économies qui sont réalisées à court et moyen terme, que ce soit en termes de matières premières, en termes d'énergie, en termes d'eau, en termes de circuits, de trajets. Quand je dis circuit, c'est pour les produits, hein, des trajets, je pense, tant aux produits qu'aux personnes qui viennent travailler dans l'entreprise. Et on a bien vu, par exemple, l'essor du télétravail qui, évidemment, va laisser des marques. Et puis, vous êtes dans un environnement, si je puis dire, sans jeu de mots, dans lequel l'opinion publique en France et en Europe est aujourd'hui très attentive au sujet climat et biodiversité en particulier, puisque la question climat et santé est devenue en France la première préoccupation avant le pouvoir d'achat ou le chômage. Donc c'est pour dire que c'est un sujet majeur et une entreprise, elle a besoin de vendre ses produits. Si elle vend des produits ou des services dont le consommateur a le sentiment qu'ils ne vont pas du tout dans le sens de ses préoccupations, il ne les achètera pas tout simplement.
C'est vrai que le consommateur a tendance à devenir un consomme-acteur et qu'aujourd'hui, il vérifie la composition des produits, la morale de l'entreprise avant d'acheter. C'est vraiment un engagement citoyen. Donc, les entreprises notamment, alors si on reprend le terme du transport, elles vont modifier, vous pensez, leur comportement dans ce domaine-là?
Déjà, je vais vous dire, le transport, ça commence par celui de ses salariés. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut réduire les émissions de gaz à effet de serre à l'occasion du transport, en ayant ça dépend de la taille des entreprises, bien entendu, mais en ayant des plans de déplacement des entreprises, en voyant comment on peut favoriser le covoiturage, comment on peut, dans les villes, aider au développement du vélo pour aller travailler. Il y a toute une série de choses à faire. Ensuite, il y a les produits en entrée et en sortie. Comment est-ce qu'on peut effectivement réduire les circuits, travailler ce qu'on appelle en circuit court, c'est-à-dire pouvoir s'approvisionner au plus près et pouvoir vendre d'abord au plus près avant d'au plus loin. Et chaque fois s'interroger sur le circuit que l'on va utiliser. Alors, Malheureusement, en France, on a complètement raté, c'est désespérant, hein, le report du fret sur le ferroviaire par rapport au camion, que d'autres pays ont réussi cette mutation. Bien, il va falloir voir dans les années qui viennent si on ne peut pas, non pas revenir en arrière, parce que malheureusement, on ne réécrit pas l'histoire, mais comment est-ce qu'on peut relancer une politique du fret par train, par bateau plutôt que par route.
Un autre gros problème aujourd'hui, c'est l'utilisation du plastique, notamment du plastique à usage unique pour les gants, pour les produits jetables aussi, parce que c'est plus hygiénique. Ça va complètement à l'encontre de la protection de l'environnement.
Pour les gants, effectivement, oui, c'est un problème. Mais vous savez que l'avenir est quand même à la fabrication de bioplastiques, c'est-à-dire de plastiques fabriqués non plus à partir du pétrole, mais à partir du végétal, notamment l'amidon, le maïs, etc. On peut tout à fait avoir des produits qui ont l'aspect du plastique, qui en ont un certain nombre de qualités et qui n'ont rien de pétrochimique. Donc, l'essor de la chimie verte, qu'on appelle la chimie verte, doit être la bonne réponse aux besoins de produits à usage unique si on continue dans cette voie.
Est-ce qu'on peut vous poser la question, Corinne Lepage, comment voyez-vous le monde d'après cette épidémie de Covid-19?
Mais écoutez, je dirais que j'ai une position assez pragmatique. Je suis désespérée par ceux qui pensent qu'il faut revenir au monde que nous avons connu et, je dirais, en accélérant toutes nos dérives au motif qu'il faut de la relance économique et que l'environnement et le social, on s'en fout.
C'est la majorité, ces gens qui pensent ça?
Non, je ne crois pas, mais c'est une tendance forte quand même chez un certain nombre d'entreprises et dans un certain nombre de pays. La première chose que Trump a fait aux États-Unis, c'est de supprimer toutes les normes environnementales. Bon. Ce qui est une vraie catastrophe, parce que regardez un exemple parmi beaucoup d'autres, ce qui est en train de se passer en Arctique. La Russie subit une marée noire absolument énorme du fait de la fonte du permafrost. La fonte du permafrost, c'est lié au réchauffement climatique, et plus le permafrost va fondre, plus on va relarguer du CO2, plus on va accélérer le dérèglement climatique. Donc franchement, on est dans une situation de très 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 grande urgence. Donc on ne peut absolument pas réduire les efforts, au contraire, il faut les démultiplier. Donc ça, c'est pas possible. Maintenant, ceux qui pensent qu'on va faire table rase de tout ce qui existe pour faire quelque chose d'autre, c'est utopique. C'est pas possible, tout simplement. Et puis, je pense qu'une majorité de gens ne le veulent pas. C'est quand même un aspect démocratique dans tous ces sujets qui est important. Donc, je pense que c'est plutôt dans une profonde transformation qu'il faut travailler en essayant de voir, à l'expérience que nous avons acquise de ce qui s'est passé depuis quelques semaines, ce que nous sommes en capacité de changer, assez vite finalement. Je parlais tout à l'heure du télétravail, je pense que les grandes conférences, vous voyez, qui nécessitent beaucoup de temps perdu et beaucoup d'émissions de CO2, c'est terminé pour un bon moment. Et que les webinaires, qui marchent fort bien d'ailleurs, vont remplacer ce type de conférences. Alors c'est dommage, je dirais, pour les rencontres d'individu à individu, mais en termes d'organisation du travail et d'émissions de gaz à effet de serre, c'est un gain tout à fait considérable. Je pense que le télétravail va beaucoup se développer, c'est-à-dire qu'on va aller vers des formes de coworking beaucoup plus développées où on aura besoin d'un bureau une fois par semaine, on arrivera, on branchera son ordinateur, on y restera la journée pour faire tous les rendez-vous qu'on a à faire, puis on tournera à télétravailler. Je pense que tout ça va changer profondément. Je pense que c'est très important. Deuxièmement, il y a une redécouverte du territoire. Je pense que durant cette période, les gens se sont rendus compte de l'importance de ce qu'il y a à côté de chez soi. Et ça rejoint une réflexion plus profonde qui concerne la ville durable, où le professeur Carlos Moreno, qui a la chaire ETI à la Sorbonne, a développé l'idée de la ville du quart d'heure. C'est-à-dire qu'à un quart d'heure à pied, vous devriez avoir dans une ville à peu près tout ce dont vous avez besoin quotidiennement, soit en termes de santé, en termes de culture, en termes d'alimentation, etc. La redécouverte du territoire, le fait de ne pas être dépendant d'autres pays pour toute une série de produits indispensables, c'est quelque chose d'extrêmement important et je pense que ça va profondément conditionner notre développement économique. Par une réindustrialisation, d'abord en France et en Europe, parce que pas forcément en France, mais au moins à proximité, c'est l'Europe. Et en ce qui concerne tout ce qui est de première nécessité, l'alimentation par exemple, Je pense que le mouvement des circuits courts, qui s'est déjà beaucoup développé depuis quelques années, va connaître un essor encore plus considérable. Parce que les gens ont envie de manger sain et veulent savoir d'où viennent les produits qu'ils achètent. Donc là, vous voyez, il y a un changement dans les habitudes alimentaires qui, je pense, va être tout à fait important. Et ça va gagner le secteur vestimentaire, je pense, hein, tout ce qui est habillement, textile. Et on va redécouvrir tout un savoir-faire, toute une capacité de nos territoires qui est extrêmement importante. Les notions d'autonomie, d'autonomie alimentaire, d'autonomie énergétique, d'autonomie digitale, d'autonomie sanitaire sont des concepts qui vont devenir clés. Ça, je pense, oui, c'est des choses très profondes qui nous marquent profondément. Et puis, peut-être le plus important, c'est le rapport à l'autre. Ça, vous allez me dire, je sors du domaine de l'économie, oui et non. C'est dans la mesure où je pense que cette phase de confinement qui nous a privés des relations amicales, des relations familiales, des relations de travail, a montré le besoin que nous avons les uns des autres. Et je pense que en termes de sentiment de solidarité, c'est quelque chose de très très important.